Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Deuxième volet aujourd'hui de notre enquête dans le 3e arrondissement de Marseille, où les écoles sont à l'image du quartier que nous découvrions hier. Les bâtiments sont sales, pas entretenus. Froid en hiver, chaud en été, quand il ne pleut pas directement à l'intérieur. Le mobilier est vétuste, les murs décrépits, la cantine aussi, les élèves souvent en grande difficulté. Comme dans le quartier, il n'y a ici aucune mixité sociale. 60% des familles vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes pourtant en plein centre-ville, dans un quartier mitoyen de l'une des opérations de rénovation urbaine les plus ambitieuses d'Europe. Euromed 2, c'est 7 milliards d'euros, dont 2 milliards d'argent public, dépensés d'ici à 2030. Dans un courrier adressé au recteur, les enseignants d'une école de la rue Nationale donnaient récemment quelques détails supplémentaires. Dans notre établissement, expliquait-il, il y a des portes coupe-feu qui ne fonctionnent pas, des rats, des cafards, une salle informatique inutilisable, une bibliothèque avec des fenêtres dangereuses, des moisissures, des plafonds en très mauvais état qui s'effritent sur les élèves, un local de sport inondé, une partie de cour inondée aussi et impraticable dès qu'il pleut, l'absence de lumière dans une partie de la cour, des rideaux non livrés depuis 5 ans, des portes de classe qui ne ferment pas, des tableaux qui risquent de tomber, des classes non repeintes depuis plus de 10 ans et un seul toilette enseignant dans le bâtiment principal qui ne ferme pas à clé. Bien que les 25 écoles maternelles et élémentaires de l'arrondissement soient classées en réseau d'éducation prioritaire renforcé, on ne voit pas bien où est la priorité ni son renforcement. Quant à rendre l'école accueillante et bienveillante, comme promis par le président de la République, alors là, je vous laisse juger. En février 2016, heureusement, Jean-Claude Gaudin, le maire LR de Marseille, a pris les choses en main, enfin à sa façon. Il a promis 41 millions d'euros pour faire des travaux dans les écoles de sa ville, qui se sont même transformées à la rentrée 2017 en plus d'un milliard d'euros. L'opération n'a pas été adoptée sans inquiétude de la part de l'opposition municipale, qui a découvert un texte de 400 pages une semaine avant qu'il soit soumis au vote. Elle dénonce aussi l'absence de recherche de financement non privé. Enfin, seulement quelques écoles seraient concernées, une école sur 13 d'après l'opposition, ce qui n'est évidemment pas beaucoup. Aujourd'hui donc, Pascal Pascariello est allé voir de plus près ce qui se passait là-bas. Enfin, elle a essayé, comme on l'entend tout de suite dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Il y a un an, en faisant un reportage sur le collège Versailles à Marseille, j'ai découvert le 3e arrondissement. Contrairement au quartier Nord, la violence ne vient pas des réseaux de drogue, mais de l'insalubrité, de l'abandon par les pouvoirs publics de ce quartier. Et les écoles ne sont pas épargnées par cette situation. Une enseignante que j'ai contactée pour préparer cette enquête m'a donné cette image. Les profs, nous sommes avec nos élèves, embarqués sur un bateau de fortune. Nous sommes en pleine tempête. Nous appelons à l'aide, mais personne ne répond. On ne voit même pas de phare à l'horizon. Mathilde a accepté de me rencontrer. Cette institutrice travaille dans une école qui est entièrement faite de préfabriqués. Cette école devait être temporaire, elle existe depuis 14 ans. Ce qui est impensable est hélas une réalité dans ce quartier. Mathilde a des classes de maternelle, elle est arrivée dans cette école il y a 6 ans.
On est fin juin, je découvre les lieux et il fait une chaleur abominable. Voilà. Tellement chaud qu'il est quand même difficile de rester dans les classes, d'autant plus que donc elles ne sont pas climatisées, hein, on est dans du préfabriqué non climatisé. Donc les enfants ont chaud, bon, mais on organise avec eux hein, des rotations pour qu'ils boivent, je fais en sorte qu'ils apprennent à boire régulièrement, enfin, toutes ces petites choses. On ne peut pas ouvrir les fenêtres sinon ben, on ne s'entend pas, parce que ça fait 3 ans que nous vivons dans le bruit et la poussière des travaux. Un gros programme immobilier, donc des travaux très 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 bruyants. Les murs tremblent, les murs sont des murs en ferraille. Hein. Donc en maternelle, ça impacte le sommeil, puisque nous avons la sieste des petits. Donc ça, c'est très difficile à vivre pour eux. Pour vous donner une idée, j'ai fait une prise de son, donc du bruit que l'on peut entendre à partir de la classe, qui peut durer très facilement 2 heures, sans discontinuer, puis pour après évidemment s'arrêter à un moment donné, et puis reprendre à l'heure de la sieste par exemple, voilà. Je vous fais écouter. C'est ce bruit-là, voilà, qui est notre quotidien. Donc, par moments, ils vont se boucher les oreilles, dire « Mais c'est quoi ce bruit, maîtresse ?» Voilà, puis j'essaie de leur raconter un petit peu les machines, enfin voilà, mettre des noms que je connais pas par ailleurs, mais bon, voilà, et puis... des moments où je pose une question, les enfants m'entendent pas, j'entends pas leurs réponses... D'autant qu'en maternelle, ils ont des toutes petites voix, une pauvreté de vocabulaire. Enfin, à un moment donné, on dit, bon, ben, on arrête et puis on va faire autre chose. Donc, quand on a des bruits très répétitifs, parfois, je m'amuse aussi corporellement. Je leur dis qu'on pourrait créer une petite danse rythmique. Enfin, voilà, on essaie d'amuser un petit peu pour accepter tout ça et puis voir les choses se construire et y voir aussi un avenir. En hiver, là, cette saison, il y a beaucoup de mistral. Les enfants se déshabillent à l'extérieur. Bon, c'est vrai qu'il fait très froid. Alors, même si ça va vite, on fait vite. Allez, on rentre vite se réchauffer à l'intérieur. Mais bon, voilà, c'est une entrée en matière de la journée qui est quand même pas extraordinaire. Donc, les porte-manteaux sont dans le couloir. Et comme le couloir est balayé par le vent, très souvent, les vestes se retrouvent par terre ou mouillées ou les deux. Certains, je leur ai conseillé de porter des sacs à dos avec quelque chose dedans d'un peu lourd, et de mettre le sac à dos sur la veste, afin de coincer la veste, pour ne pas qu'elle se retrouve par terre, ou dans l'eau, ou dans les flaques d'eau, etc. Voilà. C'est beaucoup de bouts de ficelle. Les élèves, eux, ne s'en plaignent pas. Eux, ça les amuse. On leur dit, allez, on va vite aux toilettes, parce qu'il fait très froid dehors, et puis on court, et puis on rentre vite. Il n'y a aucun adulte qui, dans le monde du travail, voilà, accepterait ça. Imaginez, là, sortir de son bureau et puis mettre son petit manteau pour aller aux toilettes. Aucun salarié n'accepterait ça. Et ici, c'est le quotidien de centaines d'élèves depuis des années. Bon. Et je me dis, là-dedans, je remplis ma mission et je ne me sens pas spécialement aidée. Dans ce secteur, on est en éducation prioritaire. La priorité, je ne la vois pas. Je crois que de l'extérieur, on ne se rend pas bien compte à quel point l'immense majorité des enfants veulent être en réussite. Et s'ils ne le sont pas au sortir de leur cursus, c'est peut-être pas leur faute. L'immense majorité des parents sont derrière leurs enfants, sont des super coachs qui croient à l'avenir, vraiment pour leurs enfants, qui sont très exigeants pour leurs enfants. Et ce que la France propose en face, c'est du foutage de gueule. C'est le plus dur, c'est de voir comment on piétine une population. J'ai honte, quoi. Malgré toute cette description, moi je me sens bien ici. Je me sens utile. Je trouve que la mission est digne d'intérêt. J'ai envie de l'accomplir longtemps. D'autant plus que j'apprécie de voir des fratries, de voir des petits naître, et puis arriver dans la classe, et puis en partir, les suivre à l'élémentaire. Ce sont des choses voilà, qui me plaisent. Puis je vois que ben, les travaux, ils auront une fin un jour. Donc voilà, je me raccroche un petit peu à ça. Et il y a toujours la promesse d'une école qui serait reconstruite. Je crois que c'est pour 2020. Vraiment, j'espère que cette nouvelle école sera dans le réseau prioritaire, qu'elle connaîtra de la mixité. Donc, dans ces conditions-là, j'espère en être. Si d'aventure la mairie choisissait de garder ces préfabriqués, tandis que la nouvelle école serait magnifique et que du coup il y ait un clivage encore plus marqué, je resterais dans les préfabriqués.
Mathilde n'abandonnera pas ses élèves, tout comme Émilie, elle aussi enseignante dans le 3e arrondissement. Émilie a commencé il y a 10 ans. À 26 ans, elle prend son premier poste dans ce quartier, à l'école Pessonnel. Passé le stress des premiers jours, elle découvre rapidement la réalité du quartier, qui s'invite en classe. Des élèves qui dorment en cours faute de n'avoir pu le faire chez eux, des enfants en crise.
Au quotidien, à Pessonnel, je commence la journée à 8 heures et quand on a passé la récréation à gérer conflit sur conflit, à monter en classe et à enchaîner les séances d'apprentissage, j'ai l'impression d'avoir pris un train à grande vitesse avec la tête à la fenêtre ouverte et que ça s'arrête à 17 heures. C'est la sensation physique en fait que j'ai, c'est d'avoir pris un courant d'air violent du matin jusqu'au soir. Il y a un an et demi de ça, on faisait encore dans l'équipe des réunions en fait où on parlait de tous les élèves en difficulté. Donc on partait du CP, on allait jusqu'au CM2, on faisait le détail classe par classe de tous les élèves à besoins spécifiques. Et il est arrivé un moment où sur 230 élèves, on avait 50 cas graves dans l'école. Par exemple, un élève pour qui il y a eu un signalement au procureur, pour des faits de violence familiale. Ça pouvait aller d'un élève qui était négligé dans sa famille et qui arrivait couvert d'urine tous les jours. Ça pouvait aller d'un élève non lecteur, il est en CM2, tel élève a besoin d'une auxiliaire de vie scolaire. Et à l'issue de ces réunions-là, on sortait, nous tous, et on était complètement à terre. Je rentrais chez moi et le week-end était fichu. Je passais mon week-end à me dire « mais c'est pas possible, 50 élèves qui vont mal, c'est pas possible, je ne peux pas continuer comme ça ». Il y a un moment, l'année dernière en particulier, où j'ai décidé de me mettre à temps partiel parce que je trouvais que de gérer vraiment le collectif de la classe et la montagne de problèmes au quotidien, c'était trop pour moi. Et j'ai décidé surtout de me battre.
Pour se battre, Émilie participe au collectif des écoles du 3e arrondissement de Marseille. Il y a 2 ans, des enseignants, des habitants, des parents du quartier ont décidé de s'organiser. Ils se réunissent une fois par mois pour préparer des actions. Mais que ce soit le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat ou la municipalité, tous restent sourds à ces appels. Émilie se souvient en particulier de la réunion organisée avec Daniel Casanova, l'adjointe au maire de Marseille, en charge des écoles.
On ne se comprenait pas, quoi. C'est pas possible. On ressort de cette réunion complètement abattu. Parce que, en fait, on ne sait plus quels moyens employer pour être entendu et que des choses se fassent sur le long terme. C'est révoltant parce que les adultes ont des solutions et on ne peut pas se permettre en fait de laisser la situation comme ça. On a une charge, on a la responsabilité de l'avenir de ces enfants-là. Donc qu'est-ce qu'on fait pour eux ? Ces enfants-là qui sont absolument avides de connaissances et qui sont absolument laissés par tout le monde sauf les enseignants. C'est terriblement injuste. Je vois mes enfants grandir. Et ce sont les mêmes que mes élèves. Ils ont autant d'appétit. Ils ont autant de sérieux, autant envie de réussir. Ils ont... Et pourtant, je sais très bien que mes enfants réussiront parfaitement. Et je me demande comment font les élèves qui sont dans ces écoles-là et... Où vont-ils trouver la ressource, en fait, pour sortir de leur quartier, pour réussir leurs études ? Je trouve que c'est profondément injuste. Ça me révolte.
Comment ne pas être révolté quand on voit des enfants grandir dans des écoles aussi délabrées? Comment ne pas être révolté quand le ministre de l'Éducation nationale, le rectorat, la mairie, laissent perdurer une situation qu'ils connaissent si bien? Pas loin de l'école d'Émilie, un autre établissement vit dans le même abandon. C'est l'école primaire où Frédéric enseigne depuis 5 ans.
Là, on est dans la cour de récréation.
Il y a plein d'escaliers. Hein.
Oui, ce qui est dangereux. Hein. Surtout quand on les lâche pour la récréation, ils ont envie de se défouler. Donc, ça court dans tous les sens. Ce sont des enfants. Hein. Donc, les escaliers, c'est un peu dangereux. Donc là, on a essayé de mettre en place, sur leur proposition, hein, toujours, un sens de circulation dans les escaliers, puisqu'il y avait un problème entre les plus grands qui pouvaient bousculer les petits sans s'en rendre compte. Donc voilà, maintenant, on descend par là, on monte par là. Cette zone là-bas des grands escaliers, qui était dangereuse, on en a fait aussi une zone calme. C'est un endroit où on leur permet d'amener des jeux, des lectures pendant la récré, puisqu'il y a des élèves qui n'ont pas envie de courir partout. Là, on a interdit certains passages, on a marqué les zones de rang, les zones de jeu. Là, ils ont le droit de dessiner à la craie, là, ils ont le droit de faire de la corde à sauter. Voilà. Il faut délimiter des zones, parce que sinon, ils se tamponnent, comme ils nous disent, et ils se rentrent dedans en pleine vitesse, et ça, c'est dangereux. Ouais. Donc le tunnel, et oui c'est fermé, en fait les élèves de ce bâtiment descendent par ces grands escaliers, il y a un seul escalier, et donc pour aller dans la cour ils passent par ce tunnel, voilà c'est la sortie, voilà c'est un...
C'est effrayant.
Je comprends que ça puisse paraître effrayant. Les tuyaux sont en train de tomber, les murs sont sales et décrépits. Donc on a plusieurs enseignantes de l'école qui se sont dit, bon, on va faire une peinture. Donc c'est comme ça que l'année dernière a été peinte une fresque de la fraternité. Donc c'est une espèce de farandole d'enfants avec des messages d'amour, de fraternité, des drapeaux de tous les pays, des planètes. Et puis c'est écrit fresque des frères, frères dans toutes les langues, voilà, en italien, en anglais... C'est quoi le décalage entre la beauté de l'innocence et l'état du mur? Voilà, des messages d'amour que les élèves ont écrits. Mon imaginaire, ma lune, mon étoile, ma merveille, ma lavande, mon genêt, mon bijou. Je ne t'ai pas encore rencontré, le futur décidera. Mon abeille, ma fleur, mon soleil, à toi les animaux, le vent, la vie, à toi le futur, l'avenir, mon destin. Ryan. Pour emmener les enfants en classe verte, on a fait un plan de financement. Le séjour revenait à environ 300 euros par enfant. On a vraiment, vraiment eu de grosses difficultés à avoir des subventions cette année. Donc on a dû demander 100 euros aux parents. Donc on a pas mal de familles qui vont nous donner 10 euros par mois là, entre novembre et juin pour payer la classe verte des enfants. Après, on a aussi deux ou trois familles qui clairement nous ont dit « je ne pourrais pas les régler ». Donc, dans ces cas-là, on s'arrange, on prend dans la coopérative de l'école, de classe, on vend des gâteaux, on vend des bonbons, on vend des calendriers. Et puis avec tout ça, on s'en sort. Ce qui m'a émue, c'est de les entendre rire. Il y a des enfants dont j'avais jamais entendu le rire. Des petits mots qu'ils ont pu m'écrire ou me dire pour me remercier de les avoir emmenés là. Il y a des enfants qui étaient en réussite alors qu'ils sont en échec scolaire. Et là, comme on leur offrait une activité un peu sportive, ils étaient en réussite. Et ça a changé leur visage. Et puis de voir aussi dans le regard d'autres adultes, que ce soit le directeur du centre ou les animateurs, qui venaient nous voir en nous disant « mais ces gamins sont exceptionnels, on a rarement des enfants de REP+, dans nos centres, puisque c'est assez cher comme séjour. Et on est très émus de voir à quel point ils sont brillants, reconnaissants, polis. Voilà. Ça, c'était très émouvant. Sur le terrain, c'est inimaginable le nombre de petites broutilles, ou parfois qui n'en sont pas, qu'on règle au quotidien. Je pense que entre la crise de nerfs d'un élève et puis une maman qui n'en peut plus non plus, donc qui vous agresse au portail, et puis on est infirmière, on est assistante sociale, on est flic, on est... voilà, et au bout d'un moment, on se sent impuissant, tout seul. Et des fois, j'aimerais être dans un bureau, chauffé, avec une ambiance de travail qui n'est pas à 80 décibels. Et je me suis posé la question de partir et je pense que c'est ce qui arrivera l'année prochaine, puisqu'il y a un moment où ça atteint notre santé mentale à tous. Et voilà, au bout d'un moment, il m'est arrivé le matin de me lever et de me dire « Aujourd'hui, je n'y arriverai pas. Je ne pourrai pas. Je n'ai pas la force. » J'avais l'impression que mon corps ne répondait plus. J'ai été arrêtée un mois. Et donc je savais que les élèves s'étaient retrouvés, étaient en répartition. Ou... voilà, j'ai des collègues qui m'ont fait parvenir un mot avec chaque élève qui disait « on vous attend, revenez ». J'ai eu envie de les revoir, j'ai eu envie d'y retourner. Nous, ce qu'on demande, c'est des aides pour des élèves en difficulté scolaire, difficulté psychologique, difficulté sociale, qui ont existé, qui ont fait leurs preuves. Ce que nous disait la psychologue, et c'est vrai, c'est que quand elle prend un enfant en charge, ça fonctionne. C'est ça qui est le plus rageant. Ça fonctionne, on le sait. Donc à partir du moment où ça fonctionne, pourquoi on laisse pas ces moyens-là et pourquoi on nous en donne pas plus? À chaque fois qu'on a interpellé la ville, on a eu quand même des réponses... avec un certain dédain. Quand on a interpellé sur le nombre d'élèves à la cantine, voilà, on peut lire dans les journaux « Ah, c'est que la cantine doit être bonne s'il y a autant d'élèves. » Non, c'est pas que la cantine doit être bonne. C'est que la plupart des enfants qui mangent à la cantine, c'est aussi parce que ça leur permet de faire un repas par jour. C'est pour ça, en fait. Comment on peut mépriser à ce point-là des enfants? Moi, c'est ce qui me met le plus en colère.
Depuis 10 ans, les enseignants ne cessent de tirer la sonnette d'alarme auprès de la mairie, de leur ministre de tutelle. Ils sont à bout de souffle. J'ai demandé à rencontrer Danielle Casanova, l'élue en charge des écoles pour la ville de Marseille. Elle a refusé catégoriquement tout entretien. Le recteur, Bernard Beignet, qui m'a interdit de réaliser un reportage à l'intérieur des écoles du 3e arrondissement, en revanche, a accepté de me recevoir. Alors, je voulais comprendre pour quelles raisons je n'avais pas la possibilité de faire un reportage dans des écoles primaires du 3e arrondissement, ce qui m'a été refusé par le rectorat.
Écoutez, il n'y a aucune interdiction, on va pouvoir reparler de tout ça, mais les portes des écoles ne sont pas fermées à Marseille.
Le rectorat, en tout cas, m'a quand même interdit de réaliser ce reportage, voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, sans avoir de réponse, moi, j'ai pu rencontrer plusieurs enseignants. Et effectivement, les alertes sont lancées depuis énormément d'années sur l'état d'insalubrité des locaux. Ils ont alerté également l'académie et vous-même par courrier, puisque ça a des conséquences évidentes sur les conditions d'enseignement.
Effectivement, il y a un certain nombre d'écoles où... il y a eu un retard dans l'entretien des bâtiments, dans la restructuration des bâtiments. Et donc à partir de là, nous n'avons aucune prise sur tout cela. C'est-à-dire que le personnel humain, les professeurs et les élèves relèvent de l'éducation nationale, mais le contenant, les bâtiments, c'est les municipalités. Donc le travail qui est le nôtre, c'est de dire « faites le travail qui est dans vos compétences ». Voilà.
Bon, et alors, comment ça se fait que malgré les alertes qui vous ont été lancées donc depuis 2015 par des directeurs, des enseignants, pour vous demander comment ça se fait que des effectifs diminuent chaque année alors qu'on est dans l'arrondissement ?
Ils n'ont pas diminué.
Alors, j'en veux pour preuve. Par exemple, le courrier, je l'ai sous les yeux, le 20 octobre 2016, concernant la psychologue scolaire qui se divise sur 7 établissements pour 1470 élèves dans le 3e arrondissement.
Écoutez, là, il faudrait regarder aussi les réponses que soit les services du rectorat, donc moi-même, ou l'inspecteur d'académie a pu faire à tous ses courriers.
J'ai regardé les réponses et c'est pour ça que je suis venue. Les enseignants et directeurs n'ont pas eu de réponse. Ils sont inquiets, ils se disent comment ça se fait que l'éducation nationale nous abandonne.
Alors, il y a tous les moyens qui ont été donnés. C'est l'arrondissement de Marseille où il y a le moins d'élèves par classe. Et ça, ça coûte, il faut en avoir conscience.
Monsieur le recteur, vous voulez pas vraiment répondre à cette demande?
Je vous ai dit, à toutes ces questions, il y a eu un examen cas par cas. Que ça, je vous demande d'en avoir conscience.
Mais je vous parle d'alerte lancée, on est en 2018, il y a plus de 3 ans, et d'année en année, des effectifs diminuent. Donc, avec des enseignants qui sont obligés parfois de faire assistante sociale, psychologue scolaire, infirmière scolaire. Je veux dire, il y a une vraie crise dans ces établissements-là.
Peut-être, mais...
Peut-être quoi ?
Madame... nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir et avec les moyens qui sont les nôtres. Et nous en avons conscience et tous les services de l'action publique font pour que les choses se résolvent. Not much you could do or say to phase me. People think I'm a little bit crazy. I get it from all angles, even occasionally. Doc Drazy will have to step in every once in a while to save me. To make me stop and think about it before I just say things. Sometimes I forget what other people just may think. A lot of rappers probably wouldn't know how to take me if they heard some shit I laid a tape for to erase me. I may be a little too fast paced and racy. Sometimes the average listener rewinds and plays me 20 times cause I say so many rhymes it may seem like I'm going too fast cause my mind is racing. And I could give a fuck what category you place me. Long as when I'm pushing up daisies and gone, as long as you place me amongst one of them greats. When I hit the heavenly gates, I'll be cool beside Jay-Z. For every single diehard fan who embraced me, I'm thankful for the talent in which God gave me. And I'm thankful for the environment that he placed me. Believe it or not, I thank my mom for how she raised me. In a neighborhood daily that jumped and chased me. It only made me.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le deuxième volet de notre enquête dans le 3e arrondissement de Marseille avec les écoles du 3e, un reportage de Pascal Pascariello réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Émilie, à toutes les institutrices, les instituteurs, les directrices et les directeurs des écoles primaires du 3e arrondissement de Marseille et au collectif des écoles du 3e. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, et Céline Autin, c'est notre stagiaire.